Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Pierrick Monsigny.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Troisième jour de notre série consacrée au rôle essentiel de l'électricité dans l'économie. Après avoir retracé hier l'histoire de la fée électricité et expliqué lundi la formation des prix, c'est le marché de la voiture électrique qui va nous intéresser aujourd'hui. Un marché qui ne représente encore que 2,5% des ventes d'automobiles dans le monde, mais qui connaît une forte progression. En 2018, les ventes ont bondi de plus de 60% par rapport à l'année précédente. La voiture électrique apparaît désormais comme le meilleur moyen de réduire les émissions de CO2. Et pourtant, des voix s'élèvent pour dénoncer les fausses promesses de ces véhicules qui ne seraient pas si écologiques. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture, et aujourd'hui encore, l'économie est électrique. Nous allons parler des mirages de la voiture électrique en compagnie de Nicolas Meillant, conseiller scientifique à France Stratégie et senior advisor chez EV Volume, un cabinet de conseil spécialisé dans la voiture électrique, en compagnie également de Philippe Biwix, ingénieur, auteur de cet ouvrage « Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire » paru cette année au Seuil. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho. Nicolas Meillant et Philippe Biwix, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que le secteur des transports est extrêmement polluant et que si la France veut atteindre la neutralité carbone en 2050, la voiture électrique apparaît aujourd'hui comme l'une des solutions les plus prometteuses, Nicolas Meillant.
Alors, il faut rappeler effectivement que le secteur des transports émet à peu près un tiers des gaz à effet de serre au niveau de l'Union européenne. Mais c'est aussi un contributeur important à la pollution atmosphérique locale. Donc ce n'est pas le CO2, mais les particules, les oxydes d'azote en ville, ceux que l'on respire, où on a un véritable intérêt à électrifier le transport, et pas que les voitures, mais aussi les bus, les camionnettes, les taxis, les Uber, éventuellement les vélos. Sur le CO2, pour revenir sur ce parti-là, aujourd'hui, au niveau mondial, là, le cas de la France est différent, mais au niveau mondial, on a encore un mix électrique avec beaucoup de charbon, 40% de l'électricité mondiale, et donc on a un gain qui est limité. Donc pour avoir des gains plus importants, bien évidemment, il faudra réduire la part de charbon dans la production d'électricité.
Alors, il y a énormément d'enjeux, Nicolas Meillant, et notamment, le gouvernement a annoncé dans le plan climat l'arrêt de la vente de véhicules thermiques, donc émetteurs de gaz à effet de serre, à l'horizon 2040. Donc vous diriez aujourd'hui qu'il y a une vraie volonté politique qui apparaît en faveur de la voiture électrique ?
Alors, il y a une vraie volonté politique en Europe, mais aussi dans d'autres pays comme la Chine, pour passer à une mobilité toute électrique. Néanmoins, comme on en parlera, il y a certaines limites auxquelles il faut prendre en compte, notamment comment est fabriquée cette voiture, où est-ce qu'elle est fabriquée, avec quelle électricité, et aussi où est-ce qu'elle est utilisée, avec quelle électricité, pour qu'elle ait des gains environnementaux significatifs par rapport à la voiture thermique.
Faisons un état des lieux, Nicolas Meillant, si vous le voulez bien, de ce marché de la voiture électrique. 2 millions de voitures électriques ont été vendues dans le monde en 2018, et les ventes progressent désormais fortement, même si elles ne représentent, comme je le disais, que 2,5 des ventes totales de voitures. Mais aujourd'hui, on assiste depuis quelques années à une progression très forte.
Alors, on a une progression très forte, bien évidemment, mais qui est d'autant plus facile qu'on part, entre guillemets, de très bas. Donc, effectivement, en France, on est entre 2 et 3% des ventes. En Chine, 5% des ventes. La Chine qui est la moitié des ventes de voitures électriques dans le monde. Donc, sur 2 millions, 1 million sont vendus en Chine. Et puis, vous avez un pays un peu extraterrestre qui est la Norvège, où, par exemple, en mars dernier, vous aviez 70% des ventes qui étaient des voitures électriques. Pour donner un ordre de grandeur à nos auditeurs, l'objectif de la France en 2030, c'est 35%, donc la moitié de ce qu'a fait la Norvège en mars.
Et la Norvège qui a vendu du coup plus de voitures électriques que de modèles à essence en mars, et ça c'était une première mondiale.
Alors l'an dernier, ils étaient un tout petit peu moins de 50% en 2018, mais effectivement, c'est la première année où on va avoir plus d'une voiture sur deux qui sera électrique. Il faut quand même rappeler que la Norvège est un petit pays, ils vendent beaucoup moins de voitures par an qu'en France, et deux, c'est un pays avec un pouvoir d'achat élevé, notamment grâce à ses revenus pétroliers.
Et trois, un pays qui a beaucoup d'hydroélectricité. pour des questions purement géographiques, beaucoup de barrages et donc une électricité déjà verte et surtout pas très chère une fois que les barrages sont fabriqués.
À propos de la Norvège, justement, je voudrais vous faire entendre Sture Pordvi qui est chargé de projet à la commune d'Oslo.
Nous sommes ici dans le premier parking souterrain au monde entièrement réservé aux véhicules électriques, juste sous la forteresse d'Oslo. Chaque place de parking est équipée d'une borne de chargement et le mieux, c'est que tout est gratuit. C'est donc un endroit très attractif, c'est toujours plein. Il faut penser autrement. Prenez les pistes cyclables, ce sont des biens publics. Personne n'imaginerait de faire payer 3 mètres de piste à chaque cycliste. Et bien pour les équipements nécessaires aux voitures électriques, c'est pareil. Au début, cela représente un investissement. Mais vous savez, à la mairie d'Oslo, le budget actuel pour les pistes cyclables est 3 fois supérieur à celui pour les voitures électriques. Et pourtant, on investit beaucoup sur les véhicules électriques.
Voilà un extrait d'un reportage diffusé sur France Inter le 29 janvier 2018. Ce qu'il faut expliquer, Nicolas Meillon, c'est que la Norvège a investi très tôt, particulièrement tôt, dans le déploiement de la voiture électrique.
Alors ça fait, en fait, la Norvège a des politiques incitatives en place depuis presque 30 ans. Donc différents avantages, pas de TVA, pas de taxes sur les voitures de société, et puis plus récemment, accès aux voies de bus, parking gratuit, ils l'ont mentionné, et donc ils ont un programme inscrit dans la durée, et ça a décollé début 2010, parce qu'avant il n'y avait pas les voitures. Et donc les premières voitures sont arrivées en 2010, et là effectivement on a un développement très fort. Ce qui est très intéressant avec la Norvège, c'est qu'on n'est pas sur, entre guillemets, des interdictions, comme en France, au Royaume-Uni, dans la plupart des pays. C'est plutôt le bâton. Eux, ils sont plutôt sur la carotte, c'est-à-dire qu'en 2025, leur objectif, c'est que 100% des ventes soient électriques. Mais ce ne sera pas une interdiction des thermiques. Ce sera parce que les gens n'auront plus d'intérêt à acheter les voitures traditionnelles.
Et ça passe notamment par le fait de rendre gratuit l'électricité sur certaines bornes de recharge. C'est ce qui se passe à Oslo ou à Bergen,
alors,
en Norvège.
Alors, ça y contribue, ça aide, mais la contribution la plus importante, c'est que la Norvège est le seul pays à appliquer, entre guillemets, à la lettre le principe du pollueur-payeur. Et donc, vous avez une fiscalité qui est assez importante sur les voitures, fiscalité dont les voitures électriques sont exemptées.
Et donc, à la fin, aujourd'hui, on peut dire que la Norvège, c'est le seul pays du monde où une voiture électrique coûte moins cher à l'achat et à l'utilisation qu'une voiture thermique.
Alors, à l'utilisation, dans beaucoup de pays, vous allez déjà avoir des équilibres qui se font. Mais à l'achat, vous devez acheter la batterie qui représente, en gros, le plein d'essence sur 3 ou 4 ans, donc vous le payez à l'avance. Et donc, la Norvège, c'est le seul pays, effectivement, où ça vous coûtera moins cher d'acheter une voiture électrique que son équivalent thermique.
Alors, on l'a dit, il y a une volonté politique dans plusieurs pays européens. On pense notamment à l'Irlande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en plus de la France, qui se sont engagés à sortir de la voiture thermique d'ici à 2030 ou à 2040. Il y a un certain nombre de villes aussi qui se sont emparées de la question. Et pourtant, ce qu'on constate, c'est que les ventes de véhicules dans ces pays restent encore assez faibles. Il y a un manque encore d'incitation financière ou non financière, d'ailleurs, suffisante.
Alors, aujourd'hui, il y a un facteur assez impactant, c'est que l'offre de voitures électriques reste limitée. Et ça va évoluer dès l'année prochaine, puisque les constructeurs ont des objectifs de réduction des émissions de CO2 qui vont les forcer à mettre sur le marché beaucoup de voitures électriques pour pouvoir atteindre ces 95 grammes en 2021. Et donc l'offre va s'étoffer et donc mécaniquement, les ventes vont pouvoir décoller. Vous avez aussi une contrainte aujourd'hui sur les batteries. Vous avez des constructeurs comme Hyundai et Kia, par exemple, qui ont jusqu'à un an d'attente parce que leur fabricant de batteries ne s'est pas organisé et donc n'est pas en mesure de fournir les batteries pour ces voitures-là. Donc il faut que toute la chaîne de valeur se mette en place pour pouvoir... Donc ce n'est pas que des incitations, on a aussi une contrainte aussi sur l'offre aujourd'hui.
Et justement sur cette question de la batterie, cela va dépendre en effet en grande partie, cette évolution de la voiture électrique, des évolutions technologiques en termes de batterie. Aujourd'hui on est passé d'une autonomie d'à peu près 150 km à plutôt 300 ou 400 km, Nicolas Meillon.
Voilà, aujourd'hui si vous achetez une Renault Zoé, vous avez une autonomie de 400 km en ville. Et je le précise, puisque sur autoroute, en ville, vous récupérez de l'énergie au freinage. C'est beaucoup moins le cas sur l'autoroute. En tout cas, c'est déconseillé. Sur autoroute, c'est plutôt 250 km.
Alors, si on regarde un peu du côté des producteurs aujourd'hui de voitures électriques, vous l'avez dit, c'est un marché qui est largement dominé par la Chine à plus de 50%. Aujourd'hui, qui sont les producteurs en place? Il y a des producteurs chinois, américains, européens. Ce seraient les 4 premiers.
Alors aujourd'hui, vous avez en gros un gros constructeur chinois qui s'appelle BYD, pour Build Your Dreams, construisez vos rêves en anglais. Et, l'an dernier, c'était Tesla. Hein. Tesla, le principal constructeur. Aujourd'hui, ils vont être au coude à coude avec BYD cette année. Et Tesla est allé en premier. Ce n'est pas un acteur traditionnel, a lancé plusieurs véhicules. Et là, rentre avec son véhicule entre guillemets accessible pour monsieur tout le monde à 55 000 euros et qui va vendre à la fois en Europe, en Chine, aux États-Unis et qui va aussi fabriquer en Chine. Et donc cette voiture-là, qui d'ailleurs, entre guillemets, pique beaucoup de clients aux constructeurs allemands, risque de rester la voiture électrique la plus vendue au monde pendant assez longtemps. Les constructeurs européens, entre guillemets, sont un peu à la traîne, en fait, parce que...
Sauf le franco-japonais, Nissan, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.
Alors oui, l'alliance, si vous mettez les trois entreprises ensemble, qui collaborent que de manière limitée sur la voiture électrique, vous allez arriver à des niveaux comparables.
On aurait un numéro 3 mondial si jamais on avait une alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui fonctionnait sur la voiture électrique.
Alors il faudrait refaire le calcul, je ne l'ai pas de tête, ils ne doivent pas être trop loin effectivement de ce niveau-là. Maintenant si on prend que Renault par exemple, Renault aujourd'hui ils ont une voiture électrique, c'est la Renault Zoé. Donc il est temps qu'ils puissent aussi étoffer leur offre et en lancer d'autres. Nissan a une voiture électrique, c'est la Nissan Leaf. Je parle des voitures, après il y a aussi des camionnettes.
Et les constructeurs européens, nous disiez-vous, sont plutôt à la traîne si on regarde du côté des Allemands par exemple?
Les constructeurs européens, contrairement aux Chinois, où c'est vraiment un plan industriel, contrairement à Tesla qui veut vraiment prendre des parts de marché aux acteurs traditionnels, les constructeurs européens... freinent un peu des cas de fer et n'y vont que parce qu'ils y sont forcés, parce que ça leur coûte plus cher de vendre cette voiture. Ils préféraient vendre un diesel ou une essence sur lesquels les moyens de production sont amortis, etc., où il n'y a pas les économies d'échelle. Et donc aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à restreindre les ventes. Même en concession, on n'est pas encouragé à acheter ces voitures. Mais ça va évoluer très fortement dès l'an prochain.
Mais alors justement, ça nous renvoie à cette question des incitations financières. Par exemple, il y a certaines villes chinoises, je crois, où il y a des quotas de vente de voitures électriques qui sont imposés aux constructeurs. Est-ce que ça, c'est une solution pour vous?
Alors, vous avez deux systèmes en Chine. Vous avez vu que dans les villes comme Pékin ou Shanghai, par exemple, si Pékin, vous voulez vous acheter une voiture et que vous n'avez pas de voiture, vous allez faire une loterie. Vous avez une chance sur 200 d'avoir une voiture essence. Si vous choisissez de prendre une voiture électrique, vous l'avez. Donc forcément, quand les gens veulent une voiture, ils vont plutôt aller vers une voiture électrique. Hein. Pour info, dans une ville comme Pékin, il se vend plus de voitures par an qu'en France. Et puis vous avez un système qui est au niveau national, effectivement, où là, les constructeurs ont des obligations de respecter un quota de vente de voitures électriques qui va effectivement les pousser petit à petit et qui va remplacer en fait le système d'incitation fiscale qui devrait s'arrêter dès l'an prochain.
Mais ce dont on se rend compte, Nicolas Meillan, c'est que s'il n'y a pas de subventions qui sont accordées aux véhicules électriques ou de taxes sur les véhicules thermiques, comme c'est le cas aussi dans certaines villes californiennes où les ventes de voitures électriques marchent bien, et ben cela ne fonctionne pas vraiment. Le calcul économique est assez rapidement fait.
Alors aujourd'hui, une voiture électrique vous permet d'aller au travail tous les jours. Pour la mobilité du quotidien, c'est parfaitement adapté. Par contre, si vous devez partir en vacances, faire des longues distances, 500 km, ça reste compliqué pour les problèmes d'autonomie, mais aussi parce qu'il n'y a pas encore de station-service, entre guillemets, de point de charge sur autoroute, et que de charger sa voiture, ça prend plus de temps que de charger, entre guillemets, sa voiture à essence. Donc, elle est plus chère et elle n'offre pas le même service, hein, puisqu'elle ne permet pas de faire la longue distance que la voiture électrique. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas, comme en Norvège ou comme à Pékin, une forte contrainte sur ton équivalent thermique, effectivement, les ventes ont du mal à décoller.
Et comme vous dites, c'est un juste milieu à trouver entre d'un côté peut-être des incitations financières et aussi l'état du marché. En Norvège, il a fallu attendre l'apparition des modèles grand public de chez Nissan et Tesla pour que les ventes commencent véritablement à augmenter.
Exactement, mais ils avaient mis déjà toutes les incitations en place. Par exemple, on pourrait décider dans certaines villes en France de donner accès aux voies bus pour les voitures électriques. Alors en Norvège, ils ont eu un problème, c'est qu'il y en a eu tellement qu'il y avait plus de monde dans les voies de bus. Donc ils ont dû revenir là-dessus et ils se sont dit, finalement, on va dire OK pour l'accès aux voies de bus, mais il faut être deux dans la voiture. Ce qui est une mesure intelligente de covoiturage et qui permet d'améliorer aussi et de diminuer le trafic.
Allons voir maintenant, si vous le voulez bien, ce qu'il se passe du côté de la France.
La loi des mobilités va apporter des gros avantages aux véhicules électriques, comme finalement le stationnement gratuit, les zones à circulation restreinte où ces véhicules-là pourront évoluer sans problème, ou alors d'autres points sur la mise en place des infrastructures dans les immeubles en copropriété, simplifier toutes les procédures et surtout, finalement, faire en sorte que tout soit très clair et simple pour l'utilisateur du véhicule électrique. Et vous avez aussi un volet pour les entreprises dans cette loi des mobilités qui permettra, in fine, de faciliter les véhicules d'entreprise à basculer à la mobilité électrique, puisqu'il reste quelques petits freins que sont les avantages en nature ou même le remboursement des frais kilométriques pour une voiture électrique, puisque ces remboursements des frais a été mis en place et calculé par rapport à des véhicules thermiques, donc pas en rapport avec le prix réel que paye l'utilisateur du véhicule électrique ou du service rendu.
Joseph Beretta, le président de l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Que pensez-vous de ces mesures incitatives, Nicolas Meillant? Elles vous paraissent suffisantes?
Là, il mentionne un point qui est intéressant et qu'il faut garder en tête, c'est le problème de la recharge. La vie, dans notre inconscient ou dans ce qu'on entend autour de nous, la voiture électrique est parfaite pour la ville. Sauf qu'en ville, quand vous habitez dans un immeuble, c'est un peu compliqué de la recharger. Parfois, vous n'avez pas de parking. Hein. Dans Paris, c'est un ménage sur deux qui n'a pas de stationnement. Et donc, en fait, la voiture électrique, selon moi, elle est moins adaptée à la ville, tout simplement parce que la voiture, tout court, n'est pas adaptée à la ville. La ville, vous avez des alternatives. Et je dis souvent que la voiture électrique, par contre, est une très bonne alternative pour les gilets jaunes, entre guillemets, en périurbain, en rural, parce que c'est les voitures, un, il faut pouvoir la charger, ce qui est plus évident quand vous habitez en dehors de Paris, vous avez plus de chances d'avoir une place de stationnement et de pouvoir mettre une prise dessus. Et deux, pour qu'elle soit intéressante, il faut qu'elle ait un usage intensif. Donc, il faut beaucoup rouler. Mmh. C'est 40, 50 km par jour. Ça vous permet de faire des économies sur le carburant et de rattraper ce que vous avez payé en plus sur la batterie.
Et en l'occurrence, ce qui a été mis en place en France, c'est l'obligation, par exemple, pour les copropriétés de mettre en place ces bornes de recharge. Alors, depuis 2015.
Il y a des obligations. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Moi, je travaille sur le sujet depuis presque 10 ans. Beaucoup de choses qui sont faites pour le faciliter, mais ça reste encore difficile. Et puis, très souvent, vous prenez quelqu'un qui habite dans Paris, qui a une voiture. Généralement, il va peu s'en servir. Et il va s'en servir pour faire quoi? Pour partir en vacances. Mais dans ce cas-là, acheter une voiture électrique n'a pas de sens. Mmh. Puisqu'en fait, elle n'est pas faite pour partir en vacances. Donc, il y a une incitation, par contre, qui est très intéressante. C'est ce que vont mettre les villes en place. On a dit, il y a le côté fiscalité, ça peut coûter moins cher, etc. Mais ce qui va être mis en place dans les prochaines années, de plus en plus, c'est le cas notamment à Londres depuis avril, c'est ce qu'on appelle des zones à très faible, voire zéro émission, ou dans le centre-ville, vous ne pourrez plus circuler si vous avez une voiture essence ou diesel. Et donc là, ce n'est plus un problème de fiscalité, c'est votre voiture traditionnelle, elle ne vous permet plus de faire les trajets du quotidien. Et donc ça, c'est une incitation forte pour développer les voitures électriques. Mais au-delà des simples voitures, ce qu'il est primordial d'électrifier en ville, c'est les bus, c'est les taxis, c'est les chauffeurs à la demande, c'est les camionnettes. Alors que les voitures individuelles, c'est plutôt la chose dont on pourrait essayer de se débarrasser, qu'elle soit électrique ou pas.
Sachant que la voiture individuelle est responsable de la moitié de la pollution du transport routier environ. Donc effectivement, il y a toute cette seconde partie dont il faudrait s'occuper et qu'il ne faudrait pas oublier, Nicolas Meillant. Mais alors, vous dites que la voiture électrique n'est pas faite pour partir en vacances. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même un objectif que s'est fixé à la France de déployer des bornes de recharge rapide sur les axes routiers et autoroutiers? Il y a un objectif, je crois, de 100 000 bornes d'ici à 3 ans.
Alors, il y a des objectifs, effectivement, important, mais là on se heurte à la réalité économique qui est que aujourd'hui c'est vraiment le point noir, c'est qui va financer le déploiement de cette infrastructure, qui va payer, parce que ce qu'on peut voir dans les pays, on a vu ça au Royaume-Uni, on a publié un rapport avec France Stratégie en juin dernier, où finalement ils ont beaucoup de mal à ce que ce soit, en fait ce n'est pas une activité qui sera a priori rentable. Donc, il faut que quelqu'un accepte de le payer. Est-ce que c'est la collectivité qui la paye? Est-ce que c'est Total qui a la station autoroute qui accepte de perdre de l'argent sur la recharge tout en gagnant sur le reste? Et aujourd'hui, c'est un problème qui n'est pas tranché. Donc, mettre des objectifs c'est bien. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème de financement et de rentabilité économique.
Qu'est-ce qui s'est passé par rapport, par exemple, aux États-Unis, Nicolas Meillant? Est-ce que les bornes qui ont été installées plutôt par le public d'abord et ensuite pris en charge par le privé?
Alors, aux États-Unis, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que vous avez sans doute entendu parler du scandale Volkswagen qui a triché sur ses émissions, qui ont été condamnés à 20 milliards d'euros d'amende. Hein, alors qu'en Europe, je crois que c'est 600 000 voitures aux États-Unis, en Europe c'est 11 millions. Je pense que s'ils ont payé 100 millions d'amendes, c'est le bout du monde. Sur ces 20 milliards d'amendes, 2 milliards d'euros sont consacrés au déploiement des infrastructures de recharge. Donc on pourrait être bien inspiré de faire contribuer ceux qui ont triché pour déployer ces infrastructures. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Les États-Unis ont un problème qui est similaire à la France. Il faut rappeler que la France est le deuxième pays le plus vaste d'Europe derrière l'Ukraine, qui fait une fois et demie la taille de l'Allemagne. Quand vous avez un grand pays, c'est plus compliqué de déployer l'infrastructure et ça coûte plus cher. Donc les États-Unis, attention, c'est beaucoup la Californie. Et la Californie a certains points en commun avec la Norvège, notamment de pouvoir d'achat, le fait que c'est aussi là où d'où vient Tesla, donc vous avez beaucoup de gens qui s'achètent. Et voilà, pour finir sur Tesla, Tesla aujourd'hui a aussi bien fonctionné parce que eux ont décidé de développer eux-mêmes leur infrastructure de recharge, donc de payer pour que les gens soient rassurés et puissent voyager. Donc aujourd'hui, la seule infrastructure qui existe pour aller en vacances, c'est celle de Tesla.
Mais ils pouvaient se le permettre parce qu'ils vendaient des voitures électriques plutôt luxueuses, plutôt coûteuses.
Déjà, effectivement, ils vendent des voitures plus chères, mais comme c'est de toute façon, s'ils ne l'avaient pas fait, ils en auraient vendu beaucoup moins. Donc, ils étaient quasiment obligés de le faire. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, les constructeurs européens comme Audi, Volkswagen se mettent ensemble à 3, 4, 5 pour financer un réseau équivalent, pour essayer de mutualiser les coûts. Pour vous montrer que c'est vraiment un des principal problème, notamment pour la longue distance.
Et en Europe, la plupart des pays, au moins la majorité des pays, n'accordent pas d'aide au déploiement de ces bornes de recharge. Elles sont laissées vraiment à la charge des entreprises et des industries.
Alors, il y a des aides pour la recharge à domicile, chez vous. Il y a des aides qui existent dans les villes. Il me semble que sur la recharge rapide, vous avez eu des premiers projets qui ont été cofinancés, notamment par la Commission européenne, à hauteur de la moitié. Mais aujourd'hui, non, c'est
ce qui se passe. La recharge rapide, c'est pour recharger son véhicule en 30 minutes.
Voilà. Mmh. Mais voilà, c'est la recharge d'itinérance sur autoroute, comme quand vous faites le plein. En Angleterre, pour vous donner un exemple, en fait, ils incluent dans les concessions qu'ils donnent aux entreprises pétrolières des obligations de mettre 1, 2, 3 points de recharge dans la station. Donc c'est une façon et ça risque de s'orienter de cette manière-là.
Et puis il y a une dimension qu'il faut peut-être préciser ici, Nicolas Meillan, c'est que il y a d'un côté les véhicules électriques qui sont dotés d'une batterie de plus ou moins forte capacité et des véhicules hybrides rechargeables. Aujourd'hui, il y a à peu près 223 000 véhicules électriques qui roulent sur les routes de France. On voit qu'il y a une concurrence entre ces deux types, ces deux modèles différents.
Alors aujourd'hui en Europe, mais y compris dans les autres pays, vous avez des incitations qui sont bien plus importantes pour les voitures électriques à batterie que pour les voitures hybrides rechargeables, pour la simple et bonne raison que les voitures hybrides rechargeables étaient souvent achetées par des sociétés parce qu'elles avaient des incitations fiscales importantes, mais que les propriétaires ne payant pas le carburant, ils ne la chargeaient jamais. Donc en fait, elle était pire que la voiture essence ou diesel. Et donc, que ce soit aux Pays-Bas, mais aussi au Royaume-Uni, les pays ont décidé de supprimer les incitations et donc ils vendent plus de voitures à la batterie. Néanmoins, cette voiture, elle, pourrait permettre de faire à la fois le quotidien en électrique, 80% du temps avec une batterie de 50 km. Et quand on part en vacances, eh bien, on a un petit moteur thermique qui vous permet d'aller à votre destination et aussi d'éviter d'avoir peur de tomber en panne, puisque vous avez toujours une solution de secours.
Et ce qu'on observe aussi, Nicolas Meillant, c'est que la puissance de la recharge devra aussi augmenter avec l'accroissement de la capacité des batteries. Ça, c'est un grand enjeu des années à venir.
Alors ça, c'est si on décide, et pour moi, ce n'est pas une question qui est tranchée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part de la voiture qui existe à essence. En France, 36% c'est un SUV. Et on se dit, on va mettre une batterie dedans et ce sera une voiture électrique. Pour moi, ça n'est pas la bonne approche. Parce que il va falloir mettre beaucoup de batteries et surtout si on veut couvrir 100% des usages avec. Je pense que la bonne approche pour la voiture électrique, c'est d'avoir déjà une voiture beaucoup plus petite, beaucoup plus légère et qui soit focalisée sur le quotidien, c'est-à-dire 80% des trajets. Parce que pour faire les 20% restants, il faut multiplier la taille de la batterie par 5. Et ça pose des contraintes, dont on parlera peut-être plus tard.
Et c'est extrêmement polluant, on en parlera aussi plus tard, mais effectivement, plus vous augmentez la taille de la batterie, plus votre véhicule devient polluant. Une dernière question, Nicolas Meillant, avant de passer à la seconde partie de cette émission. Le déploiement de la voiture électrique va aussi dépendre des services que cette voiture pourra rendre par ailleurs. Renault, par exemple, développe des modèles de voitures qui peuvent devenir eux-mêmes des sources d'électricité. Est-ce que, du côté de ces innovations-là, il y a des choses à aller chercher?
Alors, il y a effectivement la voiture électrique se charge, donc il y a plusieurs, elle pourrait rendre des services effectivement en réinjectant l'électricité dans la batterie, dans le réseau, en période de pointe par exemple, pour pouvoir lisser les pointes. Donc c'est des choses sur lesquelles les gens travaillent, c'est des choses qui sont possibles technologiquement. Maintenant, elle pose aussi des contraintes. Quand vous allez vous charger la nuit, une voiture électrique, c'est l'équivalent de la puissance appelée d'une maison. Donc si tout le monde se charge en même temps, le réseau électrique n'est pas dimensionné pour ça. Donc il y a un certain nombre d'enjeux, notamment liés au réseau de distribution locale, à la fois des services, mais aussi il y aura forcément de l'amélioration de ce qui existe. Et donc, pour l'instant, il y a des projets qui existent et il faudra voir comment ça se confirme.
Une réaction, Philippe Biwix, à ces questionnements autour de la voiture électrique, entre subventions et investissements économiques des industries.
Il me semble que ce qu'on a entendu et qui était assez clairement expliqué, c'est que la voiture électrique, elle est pleine de contradictions. Que finalement, on sent qu'elle serait plus utile en ville, dans le sens où elle réglerait des problèmes de pollution aux particules.
Améliorerait.
Non. Effectivement. Alors, il y a encore les pneus qui s'usent, effectivement, et les plaquettes de frein et quelques autres joyeusetés de ce type-là. Mais on a aussi, elle consomme moins en ville, puisqu'elle récupère l'énergie de freinage. Hein, c'est ce que expliquait tout à l'heure Nicolas avec les 400 km ou les 250 km d'autonomie. Donc, elle serait très utile en ville, comme petite voiture, quelque part comme deuxième voiture. Mais du coup, elle risque d'être moins utilisée. Et justement, la voiture électrique a besoin d'être très utilisée. Et puis, on a cette question, effectivement, de l'utilisation en pointe. C'est-à-dire de se dire, finalement, à un moment, tout le monde part un peu en vacances en même temps et a besoin de la grosse voiture pour mettre les bagages et les enfants. Donc, comment est-ce qu'on fait si, effectivement, la voiture électrique est la deuxième voiture? Ça sera sans doute celle qui sera moins utilisée. Donc, on a toute une série, comme ça, de difficultés qui ne permettent pas, et alors on parlera sans doute de la question du bilan carbone et d'autres impacts environnementaux, mais qui ne permettent pas de sauter sur la solution technique de la voiture électrique en disant c'est la bonne solution, c'est la voiture propre, donc c'est effectivement le modèle de l'avenir. On voit qu'en fait il faut être très précautionneux d'abord dans les solutions techniques et les solutions, je dirais, socio-techniques, c'est-à-dire les usages qui sont appliqués, hein. C'est l'exemple, je trouve, de la voiture hybride rechargeable qui est jamais rechargée et assez parlant de ce point de vue-là. Alors, ça peut se régler par des questions fiscales, ça peut se régler par des questions de subventions diverses et variées.
Mais pour vous, on a fait trop confiance à la technologie?
Disons que pour l'instant, on ne sait pas encore très bien si effectivement c'est la bonne technologie et pour quels usages elle sera pertinente et où elle ne le sera pas. Et on n'a pas non plus le chemin, donc on n'a pas la cible et on n'a pas non plus le chemin parce que effectivement les réactions des consommateurs, des usagers, des clients sont pas évidentes parce qu'il y a toute une série d'arbitrages par rapport à l'organisation de la vie quotidienne, par rapport effectivement aux contraintes de logement. Finalement, là où c'est le plus simple de mettre, c'est quand on est en habitat dense et on met plein de choses dans les parkings, mais justement l'habitat dense, c'est là où on voudrait chasser la voiture. Enfin voilà, il y a des contradictions partout.
Beaucoup de contradictions et des limites économiques, techniques, mais aussi écologiques, dont on va parler dans un instant.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini. There's a long line of cars and they're trying to get through. There's no single explanation, there's no central destination. But this long line of cars is trying to get through.
is all because of you. We don't wonder where we're going or remember where we've been. We've got to keep this traffic flowing and accept a little sin. So this long line of cars. Keeps coming around the bend.
Vous écoutez Long Line of Cars du groupe californien Cake sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, Nicolas Meillant et Philippe Biwik sont toujours avec nous pour parler des promesses et des limites de la voiture électrique. Alors la première limite dont il faut que nous parlions, c'est une limite d'ordre écologique. Ce que l'on constate aujourd'hui, Philippe Biwik, c'est que l'empreinte carbone des véhicules électriques serait en réalité bien plus importante qu'on ne le croyait.
On n'en sait trop rien, c'est un peu la panique à bord sur les différentes études qui sont menées, parce que le nombre de paramètres à prendre en compte est extrêmement important et donne une variabilité aux conclusions. Alors, en gros, on va essayer de calculer combien d'émissions de CO2 sont réalisées pour chaque kilomètre parcouru. Donc on va commencer par prendre l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie grise, l'énergie de fabrication de la voiture. Pour la voiture électrique, dans une voiture thermique, c'est de l'ordre de 10 à 15% qui est émis à la fabrication, avec les différents processus métallurgiques, etc. Et puis on va avoir 85%, 90% qui vont être les émissions de l'essence une fois qu'elle est brûlée dans le moteur. Quand on est en voiture électrique, on va avoir une énergie grise plus importante, bien plus importante.
Donc la fabrication est plus polluante.
La fabrication est globalement plus polluante et plus émettrice de carbone. Alors, il y a aussi d'autres types de pollution, on pourra en reparler, mais si je prends juste le critère carbone, on va avoir effectivement, pour produire un kilowattheure de batterie, faut pour la fabriquer, un kilowattheure de stockage, ça va être de l'ordre de 400 kilowattheures, je crois, d'énergie qui va devoir être mise dans la fabrication de la batterie. Alors, quel est le bilan carbone d'abord de la fabrication de cette voiture? Ben, ça va dépendre, par exemple, où les batteries sont fabriquées. Si elles sont fabriquées en Chine, si elles sont fabriquées en Pologne, dans des pays qui sont quand même assez émetteurs de CO2, l'électricité est très carbonée, et ben, on va avoir effectivement à ce moment-là une quantité plus grande.
Sachant qu'elles sont, les batteries, pour beaucoup, produites en Chine actuellement.
Oui, alors mais les gigafactories sont en train d'émerger un petit peu partout, y compris en Europe. Hein, donc,
Japon, Corée du Sud.
Il y a des projets en Europe de l'Est, en Pologne, aujourd'hui, qui sont en train de sortir. LG Chem, par exemple, un des grands fabricants, est en train de s'installer. Donc ça peut évoluer. Bon, donc il y a le mix de fabrication de la batterie. Il y a évidemment combien de batteries on va mettre dans cette voiture. Donc plus elle va être puissante, plus elle va être autonome, plus elle va être capable de parcourir une distance, plus on va devoir mettre des batteries et donc plus l'énergie grise va être importante au départ. Mmh. Voilà, ça c'est le chiffre au départ. Évidemment, les émissions de CO2 de l'électricité qui va ensuite recharger la voiture pendant sa durée de vie. Et puis on a de l'autre côté le dénominateur, c'est-à-dire on va diviser par un certain nombre de kilomètres et là le paramètre il est énorme aussi, puisque entre la deuxième voiture qui va faire 5000 km par an ou bien le taxi autonome demain, j'en sais rien, qui va faire 50 000 km par an, eh ben on ne va pas du tout diviser par la même quantité de kilomètres, donc les émissions n'auront rien à voir.
Ce qui a été calculé, c'est que la voiture électrique devient moins émettrice de CO2 que la voiture thermique à partir de 50 000 km.
Oui, largement, enfin, ça dépend un peu du mix électrique qu'on va choisir, mais très certainement, effectivement, il y a une partie vraiment non négligeable des émissions qui se font au départ. Et puis il y a un autre même paramètre qu'on pourrait rajouter. Tout à l'heure, on mentionnait la voiture électrique systémique qui pourrait faire partie des réseaux intelligents du futur et qui capterait, stockerait de l'électricité par exemple aux heures les plus chaudes et ensoleillées de la journée quand elle est sur le parking et qu'on est au travail, et puis qui pourrait restituer à l'hyperpointe du soir son électricité. Ben, de la même manière, on peut imaginer que des batteries en fin de vie, après une fois qu'elles auront un petit peu perdu de leur performance en termes de recharge, d'autonomie ou autre, elles seront plus valables pour un usage motorisé. Par contre, elles pourraient être encore valables pour des usages de stockage à domicile. Et donc là aussi, pour permettre un peu d'équilibrer entre l'offre intermittente et la demande variable. Et donc à ce moment-là, l'énergie grise et les émissions de CO2 de votre batterie à la fabrication, combien doit être affecté à l'usage de la voiture et puis combien sera affecté peut-être à un usage de 8 ou 10 ans supplémentaires qu'on pourra avoir à la maison.
Donc on comprend que le calcul est extrêmement compliqué et, voilà, et la question aussi du recyclage de ces batteries qui va rentrer en ligne de compte dans le calcul de la pollution de ces voitures électriques.
Oui, alors on a deux phénomènes sur la partie ressources. On a d'abord le phénomène de la construction de la batterie, c'est-à-dire que ces batteries elles demandent un certain nombre de matériaux et puis ensuite en fin de vie comment est-ce qu'on récupère ou pas ces matériaux. Alors, il faut savoir aujourd'hui, par exemple, donc les batteries sont des batteries qu'on appelle lithium-ion. Alors, pendant des années, Nicolas qui est dans le marché depuis 10 ans pourra en témoigner, je pense, on sait, tous les constructeurs et les analystes sont un peu affolés sur le lithium. Et puis, on a découvert qu'il y avait d'autres choses dans une batterie lithium-ion que du lithium. Donc, on a aussi, en fonction des technologies, du cobalt, ou du manganèse, du nickel, de l'aluminium, des choses comme ça. Alors il y en a un notamment qui est effectivement le cobalt, qui est un peu plus critique que les autres. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les batteries au lithium sont très mal recyclées. Alors, il y a des obligations, il y a une directive européenne notamment de taux de récupération à atteindre et de pourcentage de recyclage à réaliser. Hein, c'est aujourd'hui, il faut être à plus de 50%, mais c'est plus de 50% en poids. C'est-à-dire qu'en gros, les recycleurs aujourd'hui se concentrent principalement sur le cobalt, qui est là où il y a vraiment la valeur aujourd'hui dans une batterie.
Alors qu'il y a plein d'autres matériaux très polluants.
Mais surtout, en fait, voilà, le lithium, par exemple, n'est pas recyclé. Il faut savoir que le lithium ne coûte pas assez cher aujourd'hui pour en faire une filière valable. Donc, on va recycler la batterie et récupérer le cobalt par hydrométallurgie. Et puis, le lithium va partir dans ce qu'on appelle les laitiers et va être transformé en matériaux de construction.
Et vous disiez, Philippe Wix, que tout dépend de la façon de produire de l'électricité. Par exemple, si, comme en France, on a un modèle qui s'appuie essentiellement sur l'énergie nucléaire ou si on s'appuie sur le charbon, sachant que 40% de l'électricité mondiale est encore produite par le charbon.
Oui, 20% au gaz, donc ça fait beaucoup de carbone, tout ça.
Donc finalement, on ne fait que déplacer le problème des émissions carbone. Elles seront moins finalement présentes en ville, donc ce qui est une bonne nouvelle pour la santé. Mais en tout cas, on produira peut-être le même nombre d'émissions carbone qu'auparavant.
Oui, voire potentiellement plus en fonction effectivement d'où ont été fabriquées les batteries. On peut même avoir des effets pervers il faut voir que on a cette vision effectivement d'une électricité décarbonée, d'un déploiement des énergies renouvelables avec des taux de croissance qui sont effectivement impressionnants hein, ces deux dernières décennies, de l'ordre de 10, 15, 20% de croissance par an pour du solaire photovoltaïque, de l'éolien, etc., y compris au niveau mondial, mais ça reste aujourd'hui un tout petit pourcentage de la production. Malgré ce décollage exponentiel, et les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc les exponentiels à un moment, c'est plus facile quand c'est tout petit au départ et c'est plus dur ensuite. Hein, donc aujourd'hui, les taux de croissance sont quand même en train de ralentir. Malgré ces installations très impressionnantes au niveau mondial avec des gigawatts et des gigawatts d'éolien ou de photovoltaïque, on a, pour prendre les chiffres de l'année dernière, enfin entre 2016 et 2017, qui étaient les dernières statistiques que j'avais en tête, la production électrique mondiale a augmenté de l'ordre de 600 TWh, milliards de kilowattheures, donc à peu près la production électrique française, hein, pour se donner un ordre de grandeur au niveau mondial. Et sur ces 600 TWh qui ont été produits supplémentaires par rapport à l'année précédente, 300 ont été amenés par l'éolien et le photovoltaïque, mais 300 ont été amenés par le charbon. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à accompagner la croissance de la demande d'électricité au niveau mondial. Et on est obligé de rajouter des capacités de charbon.
Nicolas Meillant.
Oui, et pour aller dans ce sens-là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de transition énergétique. Mais la seule chose qu'on sait faire sur l'électricité ou sur les voitures, c'est de l'empilement énergétique. C'est-à-dire qu'on rajoute les choses en plus. Aujourd'hui, une voiture électrique, elle ne remplace pas, puisque les ventes de voitures thermiques continuent d'augmenter. Ça vient en plus. Les énergies renouvelables ne remplacent pas le charbon, elles viennent en plus. Et c'est là tout l'enjeu. C'est de réduire que ce soit les voitures thermiques et que ce soit surtout la consommation de charbon qui augmente d'année en année depuis 20 ans, reste à 40% l'électricité mondiale, mais comme nous consommons de plus en plus d'électricité, eh bien, en valeur absolue, donc en émissions de CO2, ça augmente. Je rappelle juste un chiffre. 60% de l'augmentation des émissions de CO2 depuis 2000 ne provient uniquement que du charbon. Et c'est l'ennemi numéro un quand on veut s'attaquer très sérieusement aux gaz à effet de serre.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a eu une augmentation de la masse considérable des véhicules donc depuis une vingtaine d'années pour essentiellement trois raisons. D'abord, la sécurité. On a rajouté des éléments de sécurité dans les véhicules, airbags, systèmes de sécurité passive, active, extrêmement important. Donc augmentation de poids, bien sûr. Deuxième aspect important, c'est la réglementation sur les émissions polluantes qui ont conduit les constructeurs automobiles à mettre dans leurs véhicules des technologies de dépollution des gaz d'échappement. Là aussi, du poids en plus. Et le troisième aspect, c'est le confort, des équipements supplémentaires. Donc en fait, il y a une partie incompressible et il y a une partie qui ne l'est pas. On ne peut pas transiger, là encore, avec les réglementations. Et la sécurité. En revanche, on se doit d'être beaucoup plus imaginatif dans l'architecture des véhicules, de manière à réduire et alléger encore plus sur les véhicules.
Philippe Schulz, qui était alors responsable énergie et ressources chez Renault, il était chez nos confrères de France Inter il y a quelques années. L'enjeu du poids des véhicules et de la batterie, c'est aujourd'hui un enjeu central, Philippe Biwix.
Alors c'est un enjeu important dans la voiture électrique puisqu'effectivement on va très vite arriver à quelques centaines de kilos qui se rajoutent quasiment au poids du véhicule dans son équivalent thermique.
C'est le cas des Tesla normalement, en l'occurrence, qui sont assez lourdes.
Ça dépend de quelle Tesla vous parlez, mais si vous parlez de la Tesla S dans son modèle sport, je pense que là on approche plutôt les 2 tonnes et que c'est plutôt le levier confort qui effectivement va jouer. Confort, puissance. Et donc derrière la puissance, la question de l'autonomie, puisqu'évidemment, plus je vais vite, plus je consomme de l'énergie, et donc plus j'ai besoin de batterie pour stocker. Le problème du poids, il dépasse la question de la voiture électrique. Il est aujourd'hui sur la question de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, la voiture thermique, puisqu'en fait, on s'aperçoit que la voiture moyenne qui aujourd'hui est mise sur le marché, en France ou en Europe, où les émissions avaient tendance à baisser légèrement année après année parce que globalement, les ingénieurs, les chercheurs, les techniciens travaillent d'arrache-pied pour baisser effectivement les émissions de CO2 par kilomètre. Mais depuis cette année, depuis un ou deux ans, les émissions moyennes remontent parce qu'en fait, on n'arrive plus à compenser l'augmentation du poids. Donc effectivement, on met des chars d'assaut sur la route désormais. Et effectivement, c'est extrêmement difficile ensuite d'aller chercher de l'optimisation de motorisation ou de vouloir électrifier. Donc, on est sur une. Voilà, on pourrait baisser les émissions de CO2 de manière beaucoup plus drastique et beaucoup plus simple en travaillant la masse des véhicules.
Sachant que les producteurs de voitures, qu'elles soient thermiques ou électriques, font largement pression, Nicolas Meillant, pour ne pas avoir de contraintes sur cette question du poids.
Alors aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez. Peu de gens sont au courant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la législation vous encourage à produire des voitures lourdes. En 2009, vous avez eu une négociation entre la France et l'Allemagne pour fixer les objectifs de réduction des émissions de CO2. Et l'Allemagne a obtenu que les constructeurs, que ce soit indexé sur la masse de la voiture vendue. Donc si vous vendez une voiture plus lourde, votre objectif sera plus haut, donc plus facile à atteindre. En fait, ce qui pénalise... De fait, notamment les constructeurs français qui font des voitures plus légères, puisqu'ils vont devoir en pourcentage faire un chemin plus grand, alors que leurs clients ont entre guillemets moins d'argent pour se payer des technologies qui vont baisser les émissions de CO2. Alors j'en profite pour nous au sein de France Stratégie, dans les prochaines semaines, on va sortir une note sur ce sujet, comment enfin baisser les émissions de CO2 des voitures et on a parlé des pistes, notamment pour la fabrication de la voiture, qui est importante. Fabriquer les voitures et leurs batteries avec une électricité faiblement carbonée. Mais le poids est aussi un élément très important de consommation, et encore plus sur les voitures thermiques, qui représentent quand même 98% des ventes en France. Et donc là, une fiscalité, comme c'est le cas d'ailleurs en Norvège, un élément de fiscalité sur le poids pourrait être une solution pour pouvoir inverser la tendance sur le poids des voitures.
Vous parliez, Philippe Biwix, de la présence du cobalt dans les batteries des voitures électriques. Et une autre source d'inquiétude, c'est la dépendance croissante aux terres rares qui sont essentielles pour fabriquer ces batteries. Or, la production de ces terres rares est elle aussi extrêmement polluante aujourd'hui.
Oui, alors il faut faire attention à pas mettre trop dans le même sac terres rares et métaux rares, puisqu'effectivement, il y a des métaux rares dans les batteries. Les terres rares sont pas particulièrement rares, mais c'est une dénomination qui vient du 19e siècle. Donc c'est plutôt dans la motorisation qu'on va retrouver dans les aimants, des moteurs électriques qu'on va les retrouver, des choses comme le lanthane ou le néodyme. Dans les batteries spécifiquement, on est plutôt sur des métaux du type lithium et puis cobalt, nickel, manganèse, éventuellement un peu de fer et d'aluminium. Et c'est lui qui fait. Enfin, il y en a deux qui font peur. Le lithium, parce qu'il y a la moitié des ressources qui est dans le triangle en Amérique du Sud entre Bolivie, Argentine, Chili, avec peut-être un peu une certaine réémergence d'un nationalisme minier qui donc pose des inquiétudes. Mais il y a aussi une production importante et substantielle à partir de roches en Australie et en Chine. Et le cobalt, lui, est plus inquiétant parce que d'abord il y a aussi des questions géopolitiques. Aujourd'hui, 55% de la production aujourd'hui est en République démocratique du Congo, donc c'est l'arc cuprifère Congo-Zambie. Et surtout, il y a aussi des aspects économiques derrière, puisque le cobalt est à plus de 80% un sous-produit des mines de cuivre ou des mines de nickel. Et donc, sa production, quelque part, et sa capacité à se développer est liée aussi à l'économie du nickel et à l'économie du cuivre.
Mais alors, ce qu'on appelle les terres rares font assez peu partie des batteries des voitures électriques aujourd'hui?
À ma connaissance, oui, c'est pas du tout indispensable. C'est plutôt dans la motorisation, en fait. Dans les aimants des moteurs, oui.
Et en tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est la Chine qui produit à la fois l'essentiel des terres rares et des batteries.
La Chine a pris une avance considérable parce qu'elle a les ressources, et notamment certains métaux rares, mais aussi des métaux non rares, qui sont nécessaires à la fabrication des batteries, je pense au cobalt par exemple. Eh bien, la Chine a pris un leadership sur toute la chaîne aval. Elle fabrique aujourd'hui 60 et demain 80% des batteries dans le monde, et ils font sortir de terre en Chine des gigafactories, donc ces gigantesques usines dans lesquelles on fabrique les batteries. Et ces gigafactories, c'est pas demain que nous en Europe on sera capable de construire des usines pareilles. C'est très louable de vouloir rattraper ce retard au niveau français et européen. On a parlé d'un Airbus de la batterie fin 2017, et aujourd'hui on en voit la concrétisation avec ce plan français d'investir 700 millions d'euros. Simplement, moi ce que j'entends quand j'en parle avec des spécialistes, c'est que la Chine nous a mis 30 ans dans la vue.
Le journaliste Guillaume Pitron au micro de Guillaume Erner dans les matins de France Culture. Face à la Chine, un Airbus de la batterie, s'il voit le jour, risque de ne pas faire le poids, Philippe Biwix. On a du mal à imaginer que l'Europe puisse combler son retard.
Il faut comprendre qu'en fait, il y a ce qui est toujours compliqué dans les chaînes de valeur industrielle, c'est qu'il y a différents étages. Donc il y a un étage de production des minerais, des concentrés qu'on va extraire des mines. Et donc là, la Chine est un scandale géologique. Ils ont plein de choses, mais ils ont pas de tout. Et par exemple, sur le cobalt, il vient pas de Chine. Donc il y a des enjeux géopolitiques, mais qui sont pas forcément chinois. Ou alors, c'est plutôt que la Chine va venir déporter des investissements, une diplomatie éventuellement un petit peu minière. Notamment en Afrique, bon, mais aussi en Amérique du Sud et en Australie. Ensuite, si on monte dans la chaîne de valeur, il y a la fabrication des concentrés, des produits chimiques qui là vont vraiment être de valeur ajoutée, qui vont ensuite être pouvoir utilisés. Et là, typiquement en prenant le cobalt, on est déjà à plus de 50%, je crois, en Chine, 80% même, Nicolas me le dit. Donc là, effectivement, même sans avoir le cobalt dans son sous-sol, le raffinage, la première partie de valeur ajoutée industrielle, elle est déjà partie en Chine parce que la Chine est usine du monde, parce que la Chine n'a pas les mêmes normes environnementales, les mêmes contraintes sur les rejets, sur les effluents gazeux, liquides ou autres que crée toute métallurgie.
D'où le fait qu'elle ait développé ses compétences depuis plusieurs décennies.
Et puis au-dessus, on va avoir la dernière couche qui va être, la dernière ou la première de toutes les autres couches industrielles qui vont se rajouter, qui va être l'utilisation de ces métaux raffinés, de ces sels de cobalt ou autres, et qui vont là servir à faire effectivement derrière des batteries et éventuellement ensuite des voitures. Donc c'est toute cette couche-là sur laquelle aujourd'hui il y a effectivement des enjeux de politique industrielle. Et si on s'amusait, je sais pas, à essayer de faire revenir les batteries des gigafactories en Europe, à nouveau il y en a qui vont s'installer, hein, puisqu'il y a un exemple de LG par exemple en Pologne. Et bien de toute manière, voilà, il faudra quand même acheter notre cobalt raffiné à la Chine. Donc en fait, c'est très compliqué de récupérer toute la chaîne de valeur.
Donc la Chine devrait dominer toute la chaîne de valeur, toute la filière, depuis l'extraction des métaux rares jusqu'à la vente de voitures électriques, Nicolas Meillon.
Alors aujourd'hui, c'est sans doute leur objectif. sur l'extraction du cobalt, on peut rajouter qu'ils possèdent aujourd'hui la moitié des mines au Congo. Ils les ont rachetées. Donc, c'est ce dont parlait Philippe. Donc, ils contrôlent la moitié de l'extraction. Ce cobalt arrive en Chine, ils le raffinent, ils le mettent dans leur batterie. Et demain, ils risquent de d'abord privilégier leur marché. Et entre guillemets, s'il en reste, si on a une contrainte, hein, des rapports publiés récemment parlent à horizon 2025, l'Europe pourrait avoir une contrainte sur ses approvisionnements. Donc, il est critique pour l'Europe. Si elle veut développer cette voiture électrique, qu'elle soit plutôt déjà fabriquée en Europe, avec une électricité peu carbonée, et qu'elle ne dépende pas de la Chine pour ses approvisionnements et le raffinage du cobalt. Donc, nous avions, il y a quelques dizaines d'années, délocalisé nos propres usines de raffinage qui polluaient. Et nous avons accompagné la Chine. Nous leur avons servi ces usines-là, loin des yeux, loin du cœur. Et aujourd'hui, le roi, entre guillemets, est nu. Mmh. Et il faut les rapatrier chez nous. Et organiser et sécuriser surtout cet approvisionnement de cobalt. Parce que si on remplace une contrainte, entre guillemets, sur le pétrole, où on dépend des pays de l'OPEP, à 30%, à une contrainte sur le cobalt, où on dépend à 80% de la Chine, on a simplement déplacé le problème, voire aggravé, et on n'a rien résolu.
Les conséquences industrielles pourraient être considérables pour l'Union européenne, et il y a aussi énormément d'emplois à la clé. Beaucoup d'inquiétudes montent sur les conséquences sociales de cette situation, Nicolas Meyer.
L'Europe, effectivement, avait un leadership mondial sur les véhicules thermiques, les moteurs essence, les moteurs diesel. Aujourd'hui, je crois qu'on parle de 12 millions d'emplois au niveau européen. Si on supprime ces 12 millions d'emplois pour acheter et importer des voitures de Chine, c'est bien évidemment pas positif pour l'emploi, mais pas non plus pour la balance industrielle, puisqu'on va remplacer des importations de pétrole par des importations de batteries. Donc il est critique d'être un peu stratège industriellement comme l'est la Chine pour pouvoir, si l'on souhaite développer ces voitures électriques, être autonome dans leur fabrication.
La voiture électrique, pour vous, Philippe Biwix, on arrive presque au terme de cette émission, ne peut donc pas constituer une solution de masse. C'est une solution miracle qui est en réalité peut-être plus compliquée qu'il n'y paraissait.
D'abord plus compliqué qu'il n'y paraît certainement, mais surtout une solution qui ne peut être qu'une complémentarité avec la sobriété. C'est-à-dire c'est tellement plus simple de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes justement géopolitiques ou de balance commerciale ou autre en consommant moins, donc en faisant des voitures plus petites. Qui seront effectivement peut-être un peu moins confortables, mais vous savez que la notion de confort, ça se décale, hein. C'est-à-dire que les années 60 avec les deux chevaux et les 4L n'ont pas été particulièrement liberticides pour les gens qui les ont vécues. Donc on pourrait tout à fait imaginer d'aller vers des voitures beaucoup plus sobres.
Et en modifiant aussi peut-être les usages, ça va dépendre aussi beaucoup de ça. C'est ainsi qu'on verra si la voiture électrique est verte ou non.
Et finalement, en favorisant bien entendu le plus possible un certain nombre la voiture là où elle est absolument indispensable et nécessaire. Retour sur le commentaire sur les gilets jaunes que faisait Nicolas, et effectivement enfourcher au plus vite et le plus souvent possible des vélos, même à assistance électrique, parce que le contenu en cobalt et en lithium d'une batterie de vélo à assistance électrique représente beaucoup moins que ce qu'il faut pour mettre dans une Tesla S.
Un dernier mot, Nicolas Meyer, sur ce marché de la voiture électrique et les enjeux qui l'attendent.
Oui, je pense que la France vise 100% de vente de voitures électriques horizon 2040, 100% la mobilité horizon 2050. En fait, on pourrait viser 80% dès 2030 en mobilité décarbonée, en utilisant déjà, quand c'est possible, toutes les alternatives qui existent à la voiture individuelle, donc les chaussures, le vélo, le bus, bien évidemment peut-être la trottinette, le covoiturage qui est un levier très très fort, et notamment en dehors des villes. Et pour les personnes qui n'ont pas d'alternative à la voiture individuelle, alors là, effectivement, la voiture électrique peut être une solution, à condition qu'elle soit pas trop petite, avec une batterie pas trop grosse, et qu'ils montent dedans avec leurs voisins pour aller au travail.
Il faut tout de même dire adieu à ce règne du tout voiture qui a dominé le XXe siècle.
La voiture couteau suisse qui vous sert à tous les usages, ça marchait avec essence ou diesel, mais ça n'est pas possible à cause des contraintes sur la batterie et de la recharge pour la voiture électrique. Donc il faut repartir des usages. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aller au travail? Qu'est-ce qu'on fait pour partir en vacances? On évite peut-être de prendre l'avion, on fait du covoiturage, on prend du train, on prend d'autres solutions. Et pourquoi pas votre voiture diesel qui sert jamais? Car les contraintes de pollution sont beaucoup moindres dans la station totale au bord de l'autoroute que ce que vous avez en ville. Mais pour la ville et les trajets du quotidien, la voiture électrique, pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer, est une solution pertinente.
Et Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui des annonces que doit effectuer le gouvernement en ce qui concerne la réforme de l'assurance chômage.
Absolument. À l'heure où nous parlons, le Premier ministre s'apprête à prendre la parole devant la représentation nationale pour énoncer son discours de politique générale, le second depuis le début du quinquennat. Maintenant que le risque d'une sanction aux élections est passé, l'heure est, semble-t-il, à l'offensive pour le pouvoir. Le gouvernement a en effet laissé fuiter dans le journal Les Échos une partie des annonces relatives à la réforme de l'assurance chômage. Comme le note le quotidien économique Les Échos, la réforme imposera notamment une dégressivité des allocations au bout de 6 mois pour les plus hauts revenus. Elle créera également un mécanisme de type bonus-malus afin de pénaliser les entreprises abusant des contrats courts. Enfin, c'est ce qui a provoqué la stupeur de nombre d'observateurs, le gouvernement entend restreindre drastiquement l'accès au chômage en allongeant la durée de travail nécessaire pour débloquer les droits des salariés.
Pour être indemnisé, il faudrait ainsi avoir travaillé l'équivalent de 6 mois sur les 24 précédents, contre aujourd'hui 4 mois travaillés sur les 28 précédents.
Exactement, une différence de taille puisque cela signifie concrètement que les salariés devront travailler plus sur un laps de temps plus court pour ouvrir leurs droits au chômage. Les Échos rappellent néanmoins que la règle voulant qu'un jour travaillé donne droit à un jour indemnisé restera en vigueur. En d'autres termes, pour 6 mois travaillés, le salarié aura toujours droit à 6 mois de chômage. Nous voilà rassurés. À la demande du gouvernement, l'UNEDIC qui pilote les comptes de l'assurance chômage a élaboré plusieurs scénarios de réforme. Le plus proche de celui retenu par le gouvernement aurait pour conséquence de priver de leurs droits plus de 236 000 personnes parmi les plus précaires de notre société. Le tout pour une économie d'à peine 160 millions d'euros. Une paille dans le budget de l'État que l'on pourrait par exemple comparer aux 4,5 milliards d'euros accordés aux plus riches avec l'aménagement de l'ISF ou encore aux 40 milliards accordés chaque année aux entreprises dans le cadre du CICE et ce, sans la moindre contrepartie.
Cette annonce, Arjuna, a notamment surpris les syndicats car elle n'avait pas été discutée lors des précédentes négociations.
Non, effectivement, comme le relève Mediapart, cette mesure n'avait pas été présentée aux partenaires sociaux, mais le gouvernement avait prévenu syndicats et représentants patronaux. En l'absence d'accord, le gouvernement reprendrait la main. Dont acte, après l'échec des négociations de février, c'est donc ce qu'il a fait, quitte à ajouter des éléments qui n'avaient pas été discutés. Mais surtout, il faut rappeler que ces mesures toucheraient en premier lieu les femmes, les jeunes, en somme toutes les victimes du temps partiel subi et des contrats courts.
Elles toucheraient aussi les salariés les plus précaires, ceux qui enchaînent les petits boulots et peinent à effectuer le nombre d'heures requis.
Exactement. Une récente étude du ministère du Travail rappelle ainsi que dans les secteurs des services, de la construction ou des transports, 9 embauches sur 10 ont été signées en CDD et que 80% de ces CDD s'étendent sur moins d'un mois. Leur durée médiane atteignant à peine 5 jours. Les salariés de ces secteurs dits en surchauffe pourraient ainsi être les premiers à subir les effets de cette nouvelle réforme de l'assurance chômage. Si le gouvernement a annoncé sa volonté de lutter contre cette précarité en imposant un malus aux entreprises recourant trop fréquemment aux contrats courts, il est néanmoins surprenant que le corollaire de cette décision soit d'affaiblir ceux qui sont déjà les plus précaires des salariés.
She was a princess, queen of the highway. Sign in the road said, take us to Madre. No one could save her, save the blind tiger. He was a monster.
On se quitte avec les Doors, Queen of the Highway. Merci beaucoup Nicolas Meillon et Philippe Biwix de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Philippe Biwix, je rappelle votre dernier livre, Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire, paru cette année au Seuil. Demain, on se demandera comment produire à l'avenir l'électricité dans l'Hexagone. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.